Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bienvenue chez nous cet après-midi. 90 minutes info, le débat et surtout l'état de la mobilisation, puisque nous serons dans le cortège parisien d'ici quelques instants avec toutes nos équipes, ainsi qu'en région d'ailleurs, où on a manifesté ce matin pour la plupart des grandes villes. Ce sera juste après le rappel de l'info en compagnie de Barbara Durand.
Le mouvement social contre la réforme des retraites et le taux de grévistes chez EDF en baisse par rapport à la première journée de mobilisation. Il s'élevait mardi à la mi-journée à 40,3% de l'effectif global contre 44,5% il y a 12 jours, chiffre communiqué par la direction. Le mouvement social a entraîné des baisses de production électrique ce matin sans provoquer de coupure. Comment mieux protéger les propriétaires de squatteurs? Le Sénat examine ce mardi une proposition de loi portée par la majorité présidentielle. L'une des mesures emblématique triple les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La proposition de loi a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et du RN. Enfin, le pape François est arrivé à Kinshasa, une visite en République démocratique du Congo de 4 jours. Première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Initialement prévue en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison des douleurs au genou du pape de 86 ans. Il s'agit là de son quatrième voyage international depuis son élection en 2013, le cinquième sur le continent africain.
Merci Barbara. C'est donc le deuxième round de l'intersyndicale, à valeur de test encore plus fort, hein, bien sûr, que la première journée, car de cette journée de mardi dépend la mobilisation future contre le texte. Alors le mouvement se renforce-t-il ou est-il à peu près conforme à celui qu'on a observé le 19 janvier dernier? Et puis, quelles sont les autres actions de nature à déstabiliser la réforme? D'ailleurs, le gouvernement entend-il la rue ou a-t-il décidé de faire totalement abstraction et de se concentrer sur l'action parlementaire et ses soutiens? C'est important. Ce cortège parisien, vous le voyez à l'écran, il s'était lancé de la place d'Italie aux alentours de 14h, assez fourni. On n'a pas encore les chiffres, bien évidemment. Mais les premiers chiffres obtenus en région montrent déjà une forte mobilisation. L'éducation nationale avance, ceci dit, des mobilisations moindres, ainsi que du côté de EDF. Donc on voit que selon les secteurs, ça n'est pas toujours absolument égal. Alors qu'est-ce que ça nous dit aussi du front syndical? Est-ce qu'il est toujours intact? On va écouter quelques représentants syndicaux tout à l'heure, juste avant le cortège parisien.
Le gel de ville moyenne, c'est plus que le 19. Niort, 2000 de plus que le 19 janvier. Abbeville, 500 de plus. Compiègne, presque 3000 de plus. Quelques exemples, et puis des villes où il n'y avait rien eu le 19, où il y a des mobilisations.
Toutes les mobilisations dans les différentes villes sont incroyables. On a des remontées avec des chiffres qui sont supérieurs, autour de 20%, mais c'est pour l'instant c'est très partiel. Mais dans des villes très moyennes, très petites, eh bien, on a des immenses chiffres de mobilisation. C'est la démonstration de quoi? C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans.
Eh bien, je vous propose d'aller le vérifier tout de suite, sans plus tarder, du côté de Lyon, où nous attend notre équipe Sébastien Benotti avec Olivier Madinier. Bonjour Olivier. À Lyon, a-t-on manifesté en nombre? Pour les chiffres qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, on voyait de grandes disparités entre ce qui était avancé par les syndicats et la préfecture, parfois du simple au double, au triple, au quadruple pour certaines villes. Qu'en est-il du côté de Lyon, cette ville que vous connaissez bien? Vous avez quand même une petite idée du degré de mobilisation par rapport à la dernière fois?
Alors écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres, que ce soit du côté de la préfecture ou même des syndicats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le cortège est extrêmement fourni. Vous le voyez sur ces images de Sébastien Bendotti. Il s'étire sur près de 2 kilomètres. Le cortège qui est parti vers 14h de la manufacture des tabacs et qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Place Bellecour, au cœur de Lyon. Là, le cortège est arrêté à 200 à 300 mètres de la place Bellecour. cours sur la place de la Guillotière. Un cortège plutôt bon enfant, même si en tête de cortège, on a vu quelques éléments cagoulés de l'ultra-gauche qui cherchent visiblement à en découdre, mais qui pour l'instant sont neutralisés par les forces de l'ordre. Beaucoup de monde, je vous le disais, dans ce cortège, et beaucoup, ce qui nous a frappé, beaucoup de personnes qui manifestent pour la première fois et qui avaient senti le besoin de venir protester contre cette réforme des retraites.
Merci beaucoup, Olivier. On reviendra vers vous, bien sûr, dès lors que cette manifestation se dispersera. Prenons le pouls de ce qui se passe à Paris, où depuis plus d'une heure maintenant, on a commencé à marcher en quittant la place d'Italie. Jeanne Cancard, vous êtes au niveau de la Rotonde, célèbre établissement parisien, au carrefour du boulevard du Montparnasse et du boulevard Raspail, dans le 14e arrondissement. Qu'est-ce que ça donne en termes à la fois de mobilisation, mais également de sécurité, parce qu'on sait qu'il y a toujours des risques à peu près à mi-parcours que les esprits s'échauffent et que des éléments perturbateurs tentent de s'infiltrer.
Oui, exactement, Nelly. Là, on est au niveau donc du boulevard du Montparnasse avec le début, la tête de cortège qui vient d'arriver ici au niveau de la Rotonde. Donc, vous l'avez dit, célèbre établissement qui est en ce moment, vous le voyez sur les images de Fabrice Esner, très protégé puisque, eh bien, il a souvent été la cible des Black Blocs qui se sont infiltrés lors de manifestations. Donc, ce célèbre établissement autour duquel, eh bien, les CRS, les policiers sont présents ici pour l'instant. Eh bien, la manifestation se déroule dans le calme, pas d'éléments radicaux qui sont présents ici. En tout cas, en tête de cortège, on a aussi vu tout à l'heure les différents commerçants qui nous ont expliqué que là, ils allaient commencer à se barricader, à fermer les magasins, puisqu'ils ont un petit peu l'habitude d'être au cœur, d'être le théâtre de ces manifestations, parfois de certains dégénères des CPS. Ah.
Voilà, on a perdu la connexion téléphonique avec Jeanne, tandis que la caméra est toujours en mouvement. On va parler politique, un petit peu avec vous, Florian Tardif. Je vous ai pas présenté les invités, tiens, dans mon empressement de partir sur le terrain. Georges Fenech est là. Bonjour, Georges. Merci d'être là pour nous aider à commenter ces images. Et donc, Florian Tardif, service politique, je reviens vers vous dans un instant. Nous accueillons également Jean Messia et Pascal Bito-Panelli. Je rappelle, Pascal, que vous êtes expert en sécurité. Vous nous serez précieux, sans doute, dans les minutes qui viennent, puisqu'on vient d'aborder l'aspect sécuritaire et le dispositif qui est en place. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne le pouls aussi de ce qui va se passer du côté de l'Assemblée nationale et de l'exécutif. Je crois qu'Elisabeth Borne a vu ses troupes aujourd'hui, enfin, le groupe Renaissance. Je l'ai trouvé, enfin, dans le verbatim que j'ai pu voir, assez incisive, avec l'emploi d'expressions très fortes, en s'adressant aux oppositions, en tout cas en taclant les oppositions. Elle a dit, il y a un certain nombre de contre-vérités qu'il faut combattre. Elle a même employé le terme de mensonge. Elle s'en est pris en particulier à la NUPES, fake news, sur le financement, tout simplement, en disant, ils disent qu'il y a de l'argent, mais en même temps, ils veulent augmenter massivement les impôts. En gros, elle les renvoie à leurs contradictions.
Oui, c'est-à-dire qu'elle dit, ils nous disent, ces députés de la NUPES qui font partie de l'opposition, que le système est équilibré et en même temps qu'il faut taxer les milliardaires pour pouvoir équilibrer ce même système. Donc il y a effectivement des contradictions qui sont pointées du doigt ce matin par Elisabeth Borne. Il y a un message également important qui a été adressé ce matin en direction de ses troupes, c'est-à-dire de la majorité elle-même, des députés Renaissance, des députés Horizon, mais également des députés du Modem. Il y a certains députés qui ont montré quelques signes de faiblesse la semaine dernière, qu'on appelle députés frondeurs maintenant. Ils sont une douzaine environ. Pourquoi ? Tout simplement parce que Elisabeth Borne a besoin de ses députés si elle souhaite faire voter le texte à l'Assemblée nationale. Elle a besoin de chaque député, car chaque voix compte, c'est-à-dire que le texte pourrait être voté si l'ensemble des députés de la majorité se mobilisent et si deux tiers des députés, les Républicains, se mobilisent également. Mais s'il y a certains frondeurs, si certains députés, comme c'est le cas à présent, les Républicains ne souhaitent pas voter le texte en l'état, le gouvernement sera obligé de passer en force, soit en utilisant le 49.3, soit en utilisant un autre article, 47-1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sera vécu comme un passage en force qui viendra, vous l'avez compris, alimenter la mobilisation qui est déjà très importante dans la rue.
Alors vous avez fait le calcul, vous avez fait le compte. Le compte n'y est pas, on serait
le compte n'y est pas,
5 ou 6 voix manquantes là.
289 voix pour passer, c'est la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité sont 249. Si on additionne les députés LR, 62, ça passe. Sauf que, comme je le disais à l'instant, 12 députés environ de la majorité ne souhaitent pas voter le texte en l'état. Ils sont une quinzaine à minima au sein des députés Les Républicains, c'est-à-dire que le texte, aujourd'hui, à cette heure où nous parlons, ne passe pas, n'est pas voté à l'Assemblée nationale à quelques voix près.
Georges Fenech, vous avez une grande expérience parlementaire. Quand Florian évoque le terme de frondeur, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'ils vont in fine s'opposer au texte ou qu'ils rentreront dans le rang? On n'est pas là dans la configuration des frondeurs du PS à l'époque de François Hollande quand même.
Il y a toujours un risque pour la majorité d'avoir effectivement des voix dissidentes. Ça s'est vu dans d'autres... souvenir d'autres situations. Normalement, vous avez une discipline de groupe, surtout des sujets comme ça fondamentaux, qui engagent l'avenir tout de même du gouvernement et derrière du président de la République, son quinquennat en tout cas. Donc il y a des moyens de faire pression sur les membres de la majorité, mais vous ne pouvez pas empêcher un certain nombre d'irréductibles qui ont des comptes à rendre dans leur circonscription. Ils entendent bien ce qui se dit. On sait que le scrutin est public, donc les électeurs sauront qui a voté quoi. J'ajoute que parmi les frondeurs, on peut rajouter aussi quelques députés du MoDem, notamment, qui font partie de la majorité. Il n'y a pas que Renaissance, où il y a quand même quelques doutes. Et sur l'utilisation, en plus, sans rentrer dans la technique, du 47.1 de la Constitution, on n'est plus sur le 49.3, on est sur le 47.1 dans le cadre d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est vrai que le gouvernement est plus à l'aise puisqu'il ne risque pas de motion de censure. Sur l'article 47.1, on ne peut pas engager la responsabilité du gouvernement. Mais attention, le 47.1, c'est un texte qui prévoit le projet de loi de finances sécurité sociale sur des questions financières. Or, dans ce projet, vous n'avez pas uniquement des questions financières. Vous avez l'index des seniors, vous avez les critères de pénibilité, vous avez de plus en plus de constitutionnalistes qui disent, et c'est aussi mon opinion, que ce sont on appelle ça des cavaliers, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer ce projet sur un certain nombre de dispositions qui finalement feraient en sorte que le projet n'ait plus son équilibre.
Même Laurent Fabius lui-même a fait quelques mises en garde de ce point de vue.
Vous avez raison. Laurent Fabius aussi a fait part de ses réserves. Donc on est à la fois sur des manifestations dont on ne sait pas exactement sur quoi elles vont déboucher, notamment en termes de blocage par la suite et tout, et on est sur une procédure législative dont on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'elle va pouvoir donner. C'est donc une période de très très grande incertitude.
Alors, on a compris, Jean Messia, qu'il y avait un point sur lequel Elisabeth Borne et l'exécutif assument totalement leur inflexibilité. C'est ce fameux âge de 64 ans. Est-ce que ça peut se retourner contre lui? Est-ce que ça peut, alimenter un peu le feu dans la rue, cette inflexibilité-là?
Il est clair qu'Elisabeth Borne a fait tapis, si je puis me permettre cette expression de poker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle dit que de toute façon, il n'y a plus rien à négocier. Elle affirme qu'il n'y a plus de grain à moudre. Et donc, effectivement, vous avez d'un côté l'inflexibilité du gouvernement sur le critère qui est en plus le plus contesté par les syndicats et au-delà par l'opinion publique, puisque cette réforme est impopulaire non seulement auprès de ceux qui manifestent, mais cette manifestation et ces grèves sont majoritairement soutenues par les Français. Donc, du coup, on a une véritable situation de blocage, c'est-à-dire un bras de fer. Oui. Et ce bras de fer est très important quant à son issue, parce que de l'issue de ce bras de fer, c'est-à-dire si effectivement la rue gagne ou si c'est le gouvernement qui gagne, dépendra d'abord le devenir de l'Assemblée nationale actuelle, de la législature actuelle, puisqu'on pourrait très bien, si jamais le texte ne passe pas, Emmanuel Macron pourrait être contraint à la dissolution, ce qui serait logique. Et par-delà, si vous voulez, le pouvoir législatif, c'est tout l'avenir du quinquennat lui-même qui est désormais en pointillé. Donc ce qui est en train de se passer est peut-être un moment clé dans le deuxième quinquennat de Macron.
La dissolution, c'est un mot tabou ou dans les cercles informés, chez les commentateurs politiques qui sont du côté de l'Assemblée, dont vous êtes, on en parle quand même. Et même du côté de Renaissance, on l'évoque à demi-mot.
On en parle au sein de l'exécutif pour justement tenter de faire peur, non pas aux oppositions, on pourrait parler peut-être des Républicains, mais surtout à la majorité. C'est le message qui est adressé aux frondeurs. Regardez, attention, si on convoque de nouveau des élections, vous pouvez perdre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, ce week-end. Thomas Mignier, qui est un député de la majorité, député Horizon, a perdu face à un député de l'opposition, de la NUPES. Si vous voulez vraiment être frondeur, très bien, nous allons organiser de nouvelles élections. Nous allons dissoudre l'Assemblée nationale. C'est la menace, entre guillemets, qui est ajoutée régulièrement par un conseiller, nous dit-on, proche de l'exécutif, proche d'Emmanuel Macron. Enfin, l'idée vient du président de la République lui-même pour tenter justement, et on en a parlé à l'instant avec Elisabeth Borne, de resserrer les rangs au sein de la majorité, de faire bloc derrière l'exécutif pour avancer avec un front uni en quelque sorte et ne pas se montrer d'ores et déjà divisé alors que les débats à l'Assemblée nationale vont être âpres la semaine prochaine.
Alors j'aime bien cette image aérienne que vous apercevez. Là on est du côté, vous voyez clairement, hein, de Port-Royal près du Crous. Donc on a quand même pas mal progressé. Il y a une forte densité de population. Jeanne Cancard, vous n'êtes pas très très loin, à quelques centaines de mètres, boulevard du Montparnasse et du côté de la Rotonde, où là le cortège maintenant semble... si ce n'est être à l'arrêt, en tout cas stagné, peut-être en raison de l'afflux justement de manifestants.
Oui, exactement, Nelly. Vous voyez, on est en tête de cortège et donc il est en ce moment arrêté pour tout simplement, eh bien, faire en sorte que le cortège se réunisse en un seul bloc. La mobilisation aujourd'hui, elle est forte. C'est évidemment ce qu'espèrent les syndicats, qu'elle soit autant, voire plus que celle du 19 janvier dernier. Donc là, tout simplement, eh bien, les manifestants, ils attendent dans le calme ici au niveau du restaurant de la Rotonde, boulevard du Montparnasse, que le cortège se reforme en entier. L'ambiance pour l'instant, elle est plutôt bonne enfant. Tout à l'heure, il y a eu quelques insultes dirigées à l'encontre des forces de l'ordre, mais pour l'instant, aucun élément radical repéré ici en début de cortège. Et vous le voyez sur ces images, eh bien, ce sont les magasins, les boutiques, les restaurants qui sont les principales cibles, comme ici la Rotonde des Black Blocs, qui sont protégés en ce moment par les forces de l'ordre. Évidemment, aussi beaucoup d'agences d'assurance, d'agences bancaires autour de nous. Là aussi, on l'a vu, elles sont toutes fermées, barricadées, puisqu'on sait que ça reste la cible de ces éléments radicaux. Mais pour l'instant, l'ambiance, elle se déroule dans le calme ici avec, on le voit, beaucoup de générations mélangées dans la rue, à la fois des retraités qui nous disent qu'ils viennent ici, non pas pour leur retraite, parce que ça ne les concerne pas directement, mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont aussi parfois présents ici, puisqu'on le voit, on peut le souligner aujourd'hui, peut-être même un peu plus que lors de la dernière mobilisation, la jeunesse est bien présente ici dans la rue à Paris.
Oui, on reparlera de la mobilisation des lycéens qui a effectivement... grossi aujourd'hui par rapport au 19 janvier, avec cette manifestation qui se déroule sous quelques rayons de soleil dans le ciel parisien, qu'on n'avait pas aperçu d'ailleurs depuis un certain temps. Ça doit mettre un peu de baume au cœur des manifestants. Parlons quand même de sécurité avec vous, Pascal Bitopanelli. Chaque manifestation est différente. Il y a deux semaines, je nous revois encore en train de commenter ici même les premiers échauffourées. On était à peu près au même moment de la manifestation. Là, on nous dit c'est calme. Ce cortège, quand même, il est beaucoup plus long, ce parcours, que le dernier observé. Ce qui veut dire que rien n'est sûr. Il y aura toujours des éléments qui tenteront de s'infiltrer. Et il y a toujours un risque qui pèse sur la fin, notamment de la manifestation.
Il y en a toujours un, absolument. Donc, vous le disiez, on est au deuxième volet de cette manifestation, avec, on le voit, une lecture qui est quasiment la même que la dernière fois, avec beaucoup de densité, on a beaucoup de monde, une grosse mobilisation, ce qui a fait que le ministre de l'Intérieur a choisi de gonfler un peu les effectifs. 11 000 policiers, on a même augmenté le nombre, le quantitatif, sur la plaque parisienne, de manière à pouvoir anticiper et contrôler. J'ai peur que dans ce flux et cet espace public très augmenté, on ait quand même quelques montées en tension et quelques accrochages, en souhaitant qu'ils soient bien sûr réduits et rapidement interceptés. Pour, et c'est la grande difficulté, vous le disiez, chaque manifestation, chaque événement est un cas d'espèce. Donc vouloir l'anticiper totalement est une... question très difficile à régler.
Mais sur le risque qui pesait, on était autour de 200 à 400 éléments perturbateurs potentiellement attendus. Hein. C'était à peu près conforme.
C'est ça, on est toujours sur ce schéma-là.
Oui. Alors on va aller dans le cortège à nouveau avec une autre de nos équipes qui est déployée sur le terrain. En l'espèce, Augustin Donadieu, accompagné de Charles Baget. Augustin, on parlait de dispositifs de sécurité et de ces policiers qui étaient donc à l'œuvre. Là, vous êtes aux abords d'une banque qui, pareil, est un petit peu protégée par un cordon pour des raisons évidentes au moment du passage du gros de la foule.
Oui, effectivement, il y a quelques instants, un déploiement très impressionnant de ces forces de l'ordre qui étaient pour la plupart cachées dans quelques rues adjacentes à ce cortège parisien. Ces forces de l'ordre qui se sont déployées devant cette banque que vous voyez à l'image, puisqu'elle a commencé à être prise à partie, prise pour cible par certains manifestants violents. Et vous pouvez l'entendre autour de nous, des manifestants plutôt revendicatifs qui demandent la libération de quelques-uns certains d'entre eux, puisque des interpellations ont eu lieu. Et à l'instant où je vous parle, eh bien, les forces de l'ordre sont la cible de jets de projectiles, de bouteilles en verre au son. Et à 15h30, on dénombre ici à Paris 6 interpellations. Et ces manifestants qui demandent la libération de ces collègues auprès des forces de l'ordre.
Merci beaucoup et à tout à l'heure. Un calme encore précaire, on l'a bien compris. Florian, je vais profiter encore de votre présence, ces quelques minutes restantes dans cette première partie d'émission, pour parler des aménagements qui seraient possibles, précisément pour satisfaire cette majorité qui est un petit peu dubitative sur la réforme. On sait que ça porte notamment sur la retraite des femmes, où là, on n'a pas été convaincus. C'est un peu Franck Riester qui avait jeté un pavé dans la mare le premier à cet égard. Il y a aussi des questions de pénibilité qui sont soulevées. Sur quoi pourrait-il transiger à la marge cet exécutif?
On a compris qu'ils ne vont pas transiger sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite, qui passerait donc de 62 à 64 ans. Ça, c'est niet. Elisabeth Borne l'a encore répété. On ne changera pas cet âge légal de départ. 64 ans, c'est non négociable, je la cite. En revanche, effectivement, il peut y avoir quelques améliorations, quelques concessions, on va dire, sur l'index senior qui serait demandé aux entreprises, sur les critères de pénibilité. Est-ce qu'on augmente le nombre de critères de pénibilité pris en compte sur le dispositif carrière longue? Il y a notamment, dans ce dispositif, quelque chose qui coince, entre guillemets, au sein des députés de la majorité, mais également au sein des députés de l'opposition, qui est que, pour l'heure, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans vont cotiser pendant 44 ans, contrairement aux autres qui cotisent uniquement 43 ans. C'est là où ça coince. Donc voilà, ces différentes possibilités qui s'offrent aujourd'hui à l'exécutif pour tenter de négocier à la fois avec les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Je parle bien évidemment des députés Les Républicains.
Sauf que tout cela, ça coûte. Georges Fenech, vous le savez bien. Et voilà, il ne faudrait pas que ça se retourne contre l'objet même de la réforme qui était de revenir à l'équilibre parce que...
Mais la marge de manœuvre est très fine. C'est-à-dire que la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui permet de dégager 18 milliards d'euros, dont environ 15 milliards serviraient à combler le déficit.
Mais
donc
si
il reste 3 milliards d'euros pour permettre quelques améliorations sur la pénibilité, sur les carrières longues. 3 milliards d'euros rapportés à l'ensemble de la population, c'est mince, très mince.
Même. On n'ira pas bien loin, il va falloir faire des choix drastiques donc, pour satisfaire cette majorité qui n'y croit pas trop.
Moi, je pense qu'on peut effectivement améliorer un texte. C'est important, la pénibilité, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout d'écoute du pays sur ces questions-là, tant que l'âge 64 ans est sur la table. Vous pouvez apporter tout ce que vous voulez dans ce texte, en termes de pour les femmes, pour l'index, tout ce que vous voulez, tant qu'il y aura ce chiffon rouge de 64 ans, ça ne passera pas dans l'opinion et ça risque de ne pas passer à l'Assemblée nationale, voyez-vous. Donc je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Il y a une crispation du débat, il y a une ligne sur laquelle la Première ministre dit « je ne bougerai plus », mais d'un autre côté, vous avez aussi un pays à 70% qui dit aussi « tant qu'on ne bougera pas, nous non plus ».
Donc pour vous, il faudra bouger in fine sur les 64 ans.
Uniquement là-dessus. Et là, ça pourrait débloquer tout le reste, quoi.
Jean, vous êtes d'accord avec ça ? Il va falloir revenir un petit peu sur.
Je suis d'accord avec ça,
sur ce côté non négociable.
Oui, bien sûr. L'âge de la retraite, l'âge de 64 ans, est le point focal de cette réforme et l'abcès de fixation pour les manifestants et l'impopularité, si vous voulez, de cette réforme. En revanche, si vous voulez, la genèse de cette histoire commence quand même à Bruxelles, parce que Florian Tardif l'a rappelé. Effectivement, 15 milliards de cette réforme seront dédiés à l'équilibre, mais vous voyez bien que cette réforme n'est pas faite uniquement pour atteindre l'équilibre, elle est faite pour dégager des excédents. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la France a explosé les critères budgétaires de Bruxelles. La trajectoire budgétaire, le programme pluriannuel qu'a envoyé le gouvernement déraille complètement par rapport aux exigences européennes. Et donc, il fallait, pour le gouvernement français, trouver des marges d'excédents budgétaires pour combler d'autres dépenses. Donc, ça aussi, ça pose problème. C'est assez iconoclaste parce que les réformes des retraites n'ont jamais été faites que pour rééquilibrer le régime des retraites. pas pour dégager des excédents.
Oui, là, on sort du cadre.
Pour financer d'autres choses.
C'est ce que dit le gouvernement.
Bah, c'est là, ce sont des excédents pour pouvoir financer justement certaines avancées sociales comme les critères de pénibilité. Comme
mais on sort du cadre stricto sensu de l'équilibre.
D'autres dépenses. Mais voilà, tout à fait. Juste un dernier mot.
Très vite, s'il vous plaît.
Très vite, je ne comprends pas, si vous voulez, que les Français se mobilisent dans la rue, que ce soit très impopulaire. Il y a eu une élection législative dans la Marne dimanche. La candidate macroniste l'a emportée face à la candidate RN, donc celle qui est favorable à la retraite, l'a emporté politiquement face au camp.
Donc il y a une forme de contradiction.
Bah, je ne comprends pas. Okay. À un moment, les Français.
On est obligé de s'interrompre pour une petite page de pub, mais on revient très vite dans le cortège parisien où peut-être que ça commence un petit peu à s'échauffer, ça et là. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de 90 minutes info. Nous serons à nouveau dans le cortège parisien de contestation de la réforme des retraites. Dans un tout petit instant, ce sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les manifestations contre la réforme des retraites, les opposants au projet de loi du gouvernement défilent ce mardi dans tout le pays. À Paris, le cortège est parti à 14h depuis la place d'Italie, direction les Invalides, en présence des responsables des principaux syndicats. Écoutez les leaders de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger.
Quand on entend la première ministre, le président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler 2 ans de plus, c'est ne pas connaître la réalité du boulot, quoi. Enfin, il suffit d'aller dans des entreprises, à l'hôpital, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot.
C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans et surtout c'est la démonstration que le monde du travail, vous savez, ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans, de pas vouloir travailler. Ce monde du travail, dans sa profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. Et donc c'est ça qui se manifeste dans tous les rassemblements ici à Paris, mais aussi partout en France.
La grève dans les trains. Ce mardi, le trafic est fortement perturbé avec environ 2 TER sur 10 en circulation et entre 25 et 30% de TGV selon les axes. Les syndicats se sont réunis. Ils proposent de poursuivre déjà le mouvement les 7 et 8 février prochains. Écoutez Fabien Villedieu, représentant de Sudrail.
Ça commence à s'ébranler. Et les victoires, c'est quoi ? C'est quand en bas ils n'en peuvent plus et qu'en haut ils n'y arrivent plus. En bas on n'en peut plus et en haut ils n'en veulent plus. Alors nous ce qu'on va vous proposer, c'est de cranter à partir de la semaine prochaine et de faire 2 jours de grève, le 7 et le 8. On vous proposera ça en Assemblée Générale.
Et direction l'Assemblée nationale à présent, où les débats autour du projet retraite ont redémarré ce matin. Sur place, on retrouve Élodie Huchard. Élodie, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée tout à l'heure devant les députés de la majorité.
Oui, exactement, devant les députés de Renaissance, mais aussi du groupe Horizon ou du Modem. Alors, plusieurs messages. D'abord, Elisabeth Borne a parlé des mobilisations en cours, expliquant qu'il fallait respecter les opinions de ceux qui manifestent. C'est la démocratie, ne soyons jamais dans la provocation, a-t-elle dit à ses députés. Et puis, Elisabeth Borne, elle estime qu'il est encore temps de faire de la pédagogie, qu'il faut expliquer le projet, qu'il faut lutter contre les contre-vérités, ici aussi à l'Assemblée nationale dans les débats. Elle dit qu'il faut expliquer aux Français qu'on ne va pas passer tout de suite à une retraite à 64 ans, mais d'ici 8 ans. Et puis surtout, elle a fustigé l'opposition et notamment celle de la NUPES en expliquant que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'équilibre financier du régime sont tout simplement dans le déni et que l'opposition, selon elle, ne propose rien sinon des hausses d'impôts. Et puis elle a aussi beaucoup parlé à ses députés de l'unité. Et puis comme une consigne ou un espoir peut-être, elle leur a lancé « Je ne doute pas une seconde que la majorité sera unie ». Elle a toujours fait bloc derrière le président de la République et son projet. Alors des mots forcément qui résonnent quand on sait qu'un certain nombre de députés, y compris de la majorité, pourrait ne pas voter cette réforme.
Merci Élodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, nouvelle hausse des prix du carburant. Voici les derniers relevés publiés hier soir. La semaine dernière, le gazole était en moyenne affiché à 1,96€. 1,93€ pour le sans-plomb 95 et plus de 2,02€ pour le sans-plomb 98 qui a pris presque 3 centimes en une semaine et ce n'est pas prêt de s'arranger. Au contraire même, nous dit Philippe Chalmin, il est professeur à l'université et spécialiste des marchés de matières premières.
Pire est peut-être à venir, notamment pour les conducteurs de voitures diesel, puisqu'à partir du 5 février, c'est-à-dire le week-end prochain, va entrer en vigueur un embargo sur les produits pétroliers en provenance de Russie. Et il faut savoir que la moitié des importations de diesel en Europe proviennent de Russie. Donc ce flux va s'arrêter, il va falloir aller acheter du diesel plus loin.
Voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de 90 minutes info à présent avec Nelly Denac.
Merci beaucoup. Et dans un instant, nous irons peut-être à l'Assemblée, parce qu'il y a un certain nombre de questions, bien évidemment, qui portent sur la réforme des retraites. Mais pour l'heure, vous l'aurez compris, c'est le cortège parisien qui nous intéresse. Un cortège qui s'était lancé de la place d'Italie pour rejoindre la place Vauban dans le 7e arrondissement en fin d'après-midi. Assez fourni, on le voit bien, sur ces grands boulevards parisiens qui traversent la rive gauche, c'est-à-dire le boulevard du Port-Royal, le boulevard Montparnasse maintenant, avec une de nos équipes peut-être qui est sur place. On va essayer de rejoindre Adrien Spiteri dans ce cortège parisien. Comment ça se passe là où vous vous trouvez, cher Adrien ?
Écoutez, cher Nelly, cela se passe plutôt bien. Ici, on avance doucement sur l'avenue des Gobelins. Le cortège a quitté la place d'Italie. Pardon, et vous le voyez, énormément de monde ici dans les rues de Paris. Énormément aussi de profils divers. On a des étudiants, on a des retraités qui viennent se battre pour la retraite de leurs petits-enfants, de leurs enfants. Et puis on a également des travailleurs, beaucoup de professeurs. C'est le cas notamment de Marc. Bonjour.
Exactement.
Marc.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie.
Exactement.
Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présent ici?
Bah écoutez, moi je suis du lycée Louise Michel de Bobigny, donc évidemment on est ici pour le retrait de la réforme des retraites, hein, dont personne ne veut, mais c'est un mot d'ordre d'unité. Nous, on est confrontés à des tas de difficultés dans les services publics, que ce soit à l'école, pour nous, comme à l'hôpital. On sait qu'il y a de l'argent, puisqu'il y a eu 413 milliards d'euros qui ont été débloqués pour la loi de programmation militaire. Il va y avoir 290 milliards d'euros pour les patrons sous prétexte de décarbonation. Nous, on ne comprend pas qu'on se batte pour avoir une infirmière, une assistante sociale, le remplacement des profs absents, des choses élémentaires. Les bâtiments sont en ruine, donc c'est vraiment du mépris pour les enfants de Bobigny, comme de plein d'autres endroits. Donc nous, évidemment, on se base sur les revendications qui sont au retrait de la réforme des retraites, mais aussi augmentation des heures de cours, diminution des effectifs pour qu'on puisse permettre à tous les élèves de progresser. Voilà.
C'est la raison essentielle. Je suis avec mon syndicat, donc Force Ouvrière.
On est plein de syndiqués dans l'établissement pour combattre cette réforme et toutes celles qui démolissent notre service public.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, que le gouvernement annule cette réforme des retraites? Est-ce que c'est l'objectif?
Ah oui, c'est l'objectif.
Réussisse son bras de fer.
C'est le mot d'ordre. Hein. C'est le mot d'ordre qui a été porté le 19 janvier hein, par des millions qui ont été dans la rue. Donc ce mot d'ordre, c'est évidemment l'objectif qui nous rassemble. Donc oui, c'est ce que nous attendons. Il n'y a aucune raison de faire des économies de 10 milliards alors qu'il y a des centaines de milliards qui sont distribués.
Et est-ce que vous êtes satisfait là, de la mobilisation quand même énormément?
Ouais, bien sûr qu'on est très satisfait, on est très heureux. On se demande comment ça va se poursuivre. Nous, notre objectif, c'est le retrait. C'est bien sûr d'être nombreux ici aujourd'hui, mais c'est le retrait. C'est aussi tout ce que je vous disais, toutes les attaques diverses et variées. C'est vraiment aussi l'occasion de se retrouver contre toute une politique qui est contre les travailleurs, contre les services publics.
Merci beaucoup Marc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur CNews. Donc vous le voyez, des travailleurs déterminés, des syndicats également déterminés à faire plier le gouvernement. Près de 120 000 personnes sont attendues dans les rues de Paris. Pour le moment, les chiffres n'ont pas encore été communiqués, mais il y a énormément de monde, Nelly.
Merci beaucoup Adrien, on retrouvera nos autres équipes, puisque vous le voyez, ce cortège il est très très long, il s'étire entre la place d'Italie et maintenant le boulevard du Montparnasse pour la tête de cortège. Sandra Buisson nous a rejoint. Sandra, quelques chiffres avancés, alors c'est toujours la même chose, par la CGT qui parle de 500 000 manifestants. On est dans quelle fourchette, quel ordre d'idée par rapport à la dernière mobilisation?
Alors pour Paris, pour l'instant, on n'a pas les informations, hein, les chiffres officiels côté autorité ne tombe que vers 18-19 heures. Ce qu'on peut faire déjà, c'est un point sur les manifestations en région qui sont effectivement légèrement plus fournies que jeudi 19. À Nantes, aujourd'hui, 28 000 manifestants décomptés par la police, 65 000 selon les syndicats. C'est d'un côté comme de l'autre plus important, puisque jeudi 19, c'était 25 000 du côté des autorités et 40 000 selon les syndicats. Bordeaux, 16 500 manifestants selon les autorités, 75 15 000 selon les syndicats, un chouïa plus que la fois dernière. Marseille, 40 000 personnes décomptées par la préfecture de police, contre 205 000 selon les syndicats. Côté préfecture, jeudi 19, on était à 26 000. Donc on le voit, mobilisation dans les grandes villes légèrement supérieure à la dernière fois. Particularité de ce mouvement, il s'enracine vraiment profondément dans le territoire, puisque au-delà de ces grandes métropoles, dans les villes moyennes, il y avait déjà jeudi 19, 5 à 10 000 personnes dans des villes comme Rodez, Brive, et on l'a vu ce matin à Arles, la police a décompté 3 500 manifestants.
C'est la particularité, Jean Messia, de cette mobilisation, le fait qu'elle ait gagné vraiment des petites villes de la France périphérique, un peu ce qu'on appelle communément aussi la gilet jaunisation de la France.
Oui, parce que, si vous voulez, on ne peut pas faire... la différence entre les anciennes mobilisations et celle-ci, c'est que celle-ci est assez diffuse sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas quelques grosses métropoles qui mobilisent énormément pour atteindre le million ou le dépasser. C'est vraiment une mobilisation qui est diffuse sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, je crois qu'au-delà, si vous voulez, de l'âge de départ à la retraite dont nous débattions tout à l'heure, qui est pour moi un élément un peu quantitatif, c'est-à-dire qu'effectivement, il détermine l'âge auquel vous pouvez avoir une retraite à taux plein, il y a aussi la qualité du travail, parce qu'on parle beaucoup de pénibilité. Alors évidemment, il y a des métiers très pénibles, et ça, c'est sûr qu'il faut en tenir compte, notamment pour ceux qui commencent à travailler très tôt dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ne voient aucune pénibilité à leur travail. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, le travail, la valeur travail, la qualité du travail, y compris pour des strates de la population ou des strates professionnelles qui en étaient jusqu'à là épargnées, eh bien, pose aussi un problème, parce qu'il n'y a plus de sens. C'est-à-dire que même un certain nombre de cadres moyens ou de cadres supérieurs ne trouvent plus de sens à leur travail. Donc effectivement, quand il y a une perte de sens collectif sur la notion de travail, eh bien, si on ne trouve pas un épanouissement dans ce travail au jour le jour, et qu'en plus, on ne passe même pas sa vie à la gagner comme c'était naguère, parce qu'aujourd'hui, le travail paye mal, il faut s'épanouir ailleurs, et les gens rêvent d'ailleurs que du travail. Voilà. Donc c'est pour ça que ça concerne, si vous voulez, toute la population française sur tout le territoire.
Georges, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le travail, c'est aussi générationnel. On le voit bien quand on sonde les 18, 25 et même au-delà, 30 ans. C'est plus l'alpha et l'oméga de la vie telle qu'on l'envisage, telle qu'on l'imagine. On est même prêt, on l'a vu dans des sondages, d'ailleurs qu'on l'a diffusé nous-mêmes, à gagner un petit peu moins pour, par exemple, opter pour la semaine de 4 jours. Ça, c'est un fait nouveau quand même.
C'est un fait nouveau qui, moi, ne m'enthousiasme pas, je dois vous le dire. Quand on est jeune,
on a envie.
L'âge, on a l'avenir, on a envie de réussir. Enfin, c'était de mon temps comme ça. Aujourd'hui, quand j'entends des jeunes dire « Oh, mais moi, je ne veux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Hein. Ah, mais moi, je veux aller à la retraite à 50 ans. Hein. » Je ne comprends pas ce qui se passe, vous voyez. Je pense qu'on a un affaiblissement un peu de la responsabilité, de l'initiative. On le voit bien partout. Hein. Donc, c'est vrai que ce rapport au travail n'est plus du tout celui que nous avions connu autrefois. Mais pour autant, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ces jeunes, il va bien falloir qu'ils se logent, qu'ils se chauffent, qu'ils élèvent leur famille, qu'ils se prennent en charge. Donc l'argent, l'argent, c'est le produit du travail. Vous voyez ? Donc à un moment ou un autre, ils reviendront à des réalités. Voyez-vous ?
On reparlera tout à l'heure de la mobilisation lycéenne et puis de ces réformes qui interviennent quand même tous les 10 ans. Vous l'avez vu dans l'actualité parlementaire de ces 20-30 dernières années.
Je crois que c'est la 30e.
C'est un peu inéluctable.
Il y a eu beaucoup de réformes depuis 1980. Mais ce qu'on peut noter d'ailleurs, c'est que le gouvernement et le président de la République, aujourd'hui, tiennent en disant « c'est pas négociable », etc. Alors que sous le précédent quinquennat, souvenez-vous, et alors qu'il avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président Macron avait reculé sur la réforme à points, bon, la pandémie, bon dos à ce moment-là. Oui. Il avait reculé, souvenez-vous aussi, sur la CSG des retraités, qui était un point de blocage des Gilets jaunes, et sur la taxe carbone. Donc un gouvernement de Macron qui recule, on l'a déjà vu par le passé, alors qu'il avait la majorité. Là, on est vraiment sur une réforme majeure, et c'est vrai que c'est l'enjeu de ce deuxième quinquennat qui se joue en ce moment sous nos yeux.
Partons au moins virtuellement dans ce cortège en attendant qu'une de nos équipes puisse se signaler. Sandra Buisson, est-ce qu'on a déjà une idée du dispositif policier à l'œuvre ? Est-ce qu'il est conforme à la mobilisation du 19 janvier ? Est-ce qu'il a été un petit peu adapté ? Est-ce que ce sont les mêmes force en présence également.
Alors légèrement plus important que la fois dernière, mais à 500 personnes de plus. Donc on a 4000 forces de l'ordre mobilisées pour cette manifestation. On attendait avait en amont 200 à 400 casseurs, hein, qu'ils soient ultra-gauche ou ultra-jaune. C'était sensiblement les mêmes attentes la fois dernière. La question, comme toujours, c'est est-ce qu'ils arriveront à passer à l'action. La fois dernière, ils ont tenté de le faire pendant une heure environ, de 15h30 à 16h30. Il y avait eu d'ailleurs des heurts et ils avaient été contenus, ces manifestants, par le dispositif des forces de l'ordre. Là, les craintes étaient un peu plus importantes parce que le climat est moins favorable. Les annonces du gouvernement ne vont clairement pas dans le sens des syndicats et les ultras n'ayant pas réussi à avoir gain de cause la fois dernière, les autorités s'attendaient à ce qu'ils reviennent de plus fort cette fois-ci. Pour l'instant, pour le dispo de sécurité, il y a eu 7000 contrôles depuis ce matin, les contrôles menés en amont pour détecter les personnes qui seraient porteuses d'armes par destination, vous savez, les boules de pétanque, les barres de fer, tout ce qui peut servir ensuite à s'en prendre aux policiers, détecter aussi les individus interdits de manifester. 6 interpellations étaient décomptées à 15h30 et une tentative de dégradation à 15h45 et à 16h, voilà les forces de l'ordre qui sont sur le terrain parce que selon nos informations, quelques individus casseurs sont rassemblés près de la rotonde, tentent effectivement de faire dégénérer la manifestation.
Premières images donc de gaz lacrymogène et de jets de projectiles. Pascal Vito Panelli, c'est là que vous intervenez un peu. Voilà, on voit l'image est pas figée, donc c'est un petit peu difficile de se rendre compte exactement de ce qui se passe, mais clairement, on a un petit peu changer d'atmosphère par rapport à tout à l'heure, ne serait-ce que parce qu'il y a ces fumées et ces forces de police sur l'avenue elle-même, alors que tout à l'heure, ils se contentaient, les policiers, de protéger les établissements bancaires. Hein, ça a changé.
Tout à fait. Donc, sur le global, je constate qu'on reste quand même toujours dans le service d'ordre, c'est-à-dire dans le premier degré de l'ordre public, sur quelques points, décristallisation des montées en tension, qui ne sont pas des réelles dynamiques de basculement, avec de ce que je vois sur les écrans, avec de la violence, mais des forces de l'ordre qui se positionnent. On aura de toute façon, dans un tel flux et une mobilité, qu'un cortège en plus long, ce qui est toujours plus difficile qu'un petit cortège à gérer dans l'ordre public, forcément des tentatives de casse et des gens qui vont aller au contact, qui vont affronter les forces de l'ordre, c'est certain, sur toujours les mêmes points de fixation, tout ce qui représente symboliquement l'État ou le capitalisme.
Alors là, on voit quand même qu'ils ont changé complètement de position et qu'ils sont un petit peu regroupés, hein, les forces de l'ordre, là où tout à l'heure, ils étaient pratiquement au contact de la population et de ses manifestants. Signe qu'il y a une sorte de distance d'observation de sécurité qui se met en place quand même.
Absolument, tout à fait. Donc le maintien de l'ordre, il a beaucoup changé, tout particulièrement depuis 2016. Les lois El Khomri, il s'est modernisé. Le choix d'un parcours n'est jamais neutre. On prépare un parcours, on le négocie, on le cible. On a des gens qui passent le matin pour sécuriser, pour protéger certaines choses, les abribus, les espaces publicitaires, retirer des éléments qui pourraient être des armes ou des projectiles contre les forces de l'ordre, les poubelles vertes, protéger bien sûr et faire protéger ce qui sera sensible. On voit aujourd'hui des vitrines, des banques littéralement disparaître derrière des panneaux de bois et des panneaux métalliques. C'est la preuve qu'on connaît aujourd'hui les risques et qu'on sait qu'une situation peut déraper, d'autant plus sur des parcours où les commerçants et les gens qui sont souvent visés ont l'habitude de voir défiler les manifestations. Et ensuite, le maintien de l'ordre, il est réactif, il est offensif, il va tout de suite faire en sorte de pouvoir neutraliser les individus qui non seulement affrontent les forces de l'ordre, mais peuvent faire déraper et perdre le contrôle à la manifestation.
Dans le cortège, Augustin Donadieu, ce cortège qui avance très lentement, c'est vrai que depuis que nous avons pris l'antenne, c'est-à-dire il y a pratiquement une heure, il est toujours aux abords de la rotonde, c'est-à-dire qu'on n'a pas progressé énormément.
Oui, effectivement, boulevard du Montparnasse, c'est un cortège qui fluctue entre un nombre de manifestants très important ou alors très éparse. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, autour de nous, la moyenne d'âge est particulièrement basse. À vue d'œil comme cela, je dirais aux environs de 30 ans. Donc une jeunesse qui s'est mobilisée fortement avec leurs syndicats, aux côtés des syndicats historiques comme la CGT, la CFDT, etc. Ce cortège qui continue sa route en direction de la place Vauban, ce cortège qui s'est arrêté plusieurs minutes
pas moins d'une demi-heure à un moment donné, puisque bien des manifestants ultraviolents, comme vous l'avez vu tout à l'heure, s'en sont pris à un établissement bancaire. Les forces de l'ordre se sont déployées pour protéger cet établissement bancaire. Et une interpellation a eu lieu, et donc certains manifestants ont tenté de libérer cette personne, ce qui a bloqué effectivement le cortège durant une trentaine de minutes. Mais pour le moment, le cortège continue sa route dans un calme apparent, avec quelques vapeurs, il faut bien le dire, de bombes lacrymogènes. Mais tout se passe relativement bien ici, boulevard du Montparnasse.
Et on a donc plusieurs points de vue là à l'écran. Vous voyez à la fois de l'intervention policière pour sécuriser la bonne marche du cortège, avec voilà, des mouvements quand même hein, de ces... Je ne sais pas si ce sont des braves à vue d'œil, de quelle troupe s'agit-il, Pascal ?
On a écouté un peu tout, des compagnies de sécurisation, les braves, des BAC, et puis bien sûr les forces de l'ordre mobiles d'intervention classique que sont les gendarmes mobiles et les CRS, en sachant qu'aujourd'hui on a un atout qui est un atout majeur, qui est celui bien sûr de travailler dans une gestion concertée du maintien de l'ordre avec ces fameux SOS, c'est-à-dire services d'ordre syndicaux. C'est primordial, c'est des gens qui savent canaliser et qui permettent des relais extrêmement importants avec les policiers.
Jeanne Cancard, vous êtes vous aux abords de ce cordon policier qu'on voit, et vous nous confirmez que les premières tensions se sont fait jour avec des gaz lacrymogènes qui ont déjà été sortis.
Oui, exactement, Nelly. Les premières tensions ont éclaté ici, boulevard du Montparnasse, avec des éléments radicaux qui sont présents ici, sur ce boulevard, qui ont voulu, dans un premier temps, s'en prendre à des agences bancaires, à des commerces, mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, ont procédé à certaines interpellations. Aucun commerce, pour le moment, n'a été dégradé, même si, évidemment, ceux qui restent la cible principale de ces Black Blocs, eh bien, restent les banques et le restaurant de la Rotonde que vous voyez en ce moment à l'image des forces de l'ordre que vous entendez sûrement derrière moi donner certains ordres, puisqu'il y a des éléments radicaux qui sont face à eux. Il y a beaucoup d'insultes évidemment qui fusent. On voit aussi des projectiles comme des bouteilles en verre qui sont envoyées en direction des forces de l'ordre. Il faut évidemment bien préciser que ces éléments radicaux ne font pas partie réellement du cortège. Ce ne sont pas des manifestants, ce sont encore une fois des personnes entièrement vêtues de noir. Certains qu'on a pu reconnaître, qui étaient déjà présents lors de la dernière manifestation et qui viennent clairement pour affronter les forces de l'ordre et s'en prendre au magasin ici sur ce boulevard.
Merci. Pour l'instant, Pascal, c'est pas de nature à créer des affrontements directs. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cadre de regroupements organisés de ces Black Blocs tels qu'ils ont l'habitude de les opérer. C'est-à-dire que là, c'est encore un petit peu anarchique, si je puis me permettre ce terme.
Absolument. Pour le moment, de ce qu'on voit à l'écran, tout état de cause, soyons prudents. On est sur des actions isolées, de petits groupuscules que les forces en nombre et professionnelles ont une facilité de maîtrise et de suivi. Et je pense que dans sa globalité, pour le moment, et tant mieux, la manifestation se passe bien en gardant cet équilibre si délicat à trouver, qui est celui de l'équilibre entre la sécurité et la liberté.
Sandra Buisson, petite précision avant de refermer cette
juste une précision. Donc là, on vient d'apprendre que, comme la semaine dernière, un itinéraire bis a été ouvert. Oui. Donc ça avait été prévu en amont, cet itinéraire bis, au cas où il y avait trop de flux. Donc il y a un autre cortège qui part de Place d'Italie toujours, mais qui passe par le boulevard Auguste Blanqui, donc un peu plus au sud par rapport au cortège classique. Il faut garder à l'esprit que c'est aussi ce qui avait été utilisé la semaine dernière, alors parce qu'il y avait énormément de flux, mais c'est ce qui avait permis aussi de cantonner les Black Blocs qui étaient sur le cortège principal et ensuite de dévier les manifestants classiques vers le deuxième itinéraire, et ça avait permis d'éviter que les ultras n'aillent commettre des violences sur la fin du parcours.
On avait parlé aussi de policiers qui s'étaient mobilisés la dernière fois, qui avaient manifesté. Est-ce qu'on sait quel est le degré de mobilisation de la part des forces de l'ordre qui s'opposent ?
Alors, on n'a pas le rendu syndical. Non, on sait que toutes les organisations syndicales appelaient à se mobiliser.
Appelaient à le faire, d'accord. Un petit commentaire, Jean Messia, sur ce que vous avez vu, notamment en termes de maintien de l'ordre à l'instant.
Oui, alors moi, je suis toujours assez surpris de la facilité avec laquelle les Black Blocs arrivent dans le cortège et s'en donnent à cœur joie. Je ne comprends pas pourquoi, comme d'autres groupuscules, on a déjà eu ce débat mille fois, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. Pourquoi, contrairement à d'autres groupuscules, ces gens-là ne sont pas arrêtés dans la mesure du possible en amont, parce qu'ils sont identifiés, d'autant plus qu'il s'agit de personnes très souvent qui sont des récidivistes ou des multirécidivistes de ces opérations. La deuxième chose, c'est que on voit bien qu'ils agissent quand même dans une forme d'impunité, de complaisance, peut-être même de sympathie, dans le cadre du cortège lui-même, puisque imaginez que ça avait été, je sais pas, des gens d'extrême droite ou des gens de l'ultra-droite. Les gens qui sont dans le cortège les auraient pris à partie en les foutant dehors. Là, on voit bien que les gens qui défilent dans le cortège, finalement, ils les laissent quand même faire. Je veux dire, il n'y a pas de mouvement de foule pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire.
Moi, je n'irais pas jusqu'à parler de soutien quand même.
Ben, c'est une forme de complaisance, je suis désolé. Il n'y avait pas de Black Bloc dans la Manif pour tous, par exemple, parce qu'ils savent très bien qu'en arrivant dans la Manif pour tous, ils n'auraient pas vraiment eu de sympathie vis-à-vis de leur cause. Là, en l'occurrence, c'est des éléments radicaux. Donc la différence avec ceux qui défilent, ce n'est pas nécessairement une différence de nature, c'est une différence de degré. Voilà pourquoi il y a quand même une forme d'omerta, ou en tout cas d'inaction, je ne vais pas aller jusqu'à la sympathie, mais en tout cas d'inaction de la part de la foule qui les laisse quand même faire.
Pour préciser factuellement, les Black Blocs aujourd'hui se trouvent, comme c'est le cas extrêmement souvent, dans le pré-cortège. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec les manifestants classiques, ils sont devant toutes les barrières syndicales et ils sont dans ce qu'on appelle habituellement la nébuleuse. C'est un pré-cortège où généralement les individus violents trouvent refuge plus facilement parce qu'effectivement autour d'eux il y a des individus plus complaisants avec leur profil. Une source policière nous a dit il y a quelque temps, quand on va dans le pré-cortège, on sait très bien où on va. Et en fait, en général, les ultras, quand ils se mettent à cet endroit-là, ils s'en servent pour faire des allers-retours dans le cortège et faire dégénérer le cortège. Mais donc, effectivement, ce ne sont pas les manifestants classiques qui sont sympathisants avec ces gens-là.
Merci pour cette précision sur le terme de nébuleuse. On va vérifier aussi ce qui se passe à Lyon. Où on arrive à la fin de la manifestation, notre équipe est toujours sur place. Bonjour, rebonjour Sébastien Bendottier et Olivier Madinier. Là aussi, quelques heures quand même à signaler au moment de la dispersion. Hein.
Oui, absolument. Quelques heures limitées en toute fin de cortège. Vous le voyez sur les images de Sébastien Bendottier. Le cortège traverse le Rhône pour se rendre sur la place Bellecour. Et quelques éléments de l'ultra-gauche situés dans cette nébuleuse dont parlait à l'instant Sandra Buisson en plateau. C'est-à-dire ces éléments qui n'étaient pas officiellement dans le cortège, qui ont eu quelques heures avec les forces de l'ordre. Il y a eu des gaz lacrymogènes ainsi que des camions à eau qui ont été actionnés par les forces de l'ordre, mais les choses sont à présent revenues dans l'ordre. Pas d'éléments pour l'instant sur le nombre de participants. La préfecture n'a pas encore communiqué, ni les syndicats. Ils attendent l'arrivée de la manifestation pour nous donner des chiffres. Mais en tout cas, la foule était très très dense à Lyon cet après-midi.
Merci beaucoup pour ces belles images du côté de Lyon. Georges Fenech, ville que vous connaissez bien. Oui, ça fait du monde quand même. Hein.
Non, mais d'une manière générale, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites villes, il y a une mobilisation très forte. C'est sûr, un peu plus, semble-t-il, que le 19. Mais pour autant, le problème va rester entier pour la suite. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura... Enfin, il faut rester prudent, bien sûr, de débordements graves. Il y aura toujours quelques éléments sporadiques, mais d'une manière générale, la démonstration, elle est faite par les syndicats, de l'unité syndicale, de la mobilisation du pays et de l'importance du nombre de manifestants. Mais pour autant, le problème, il reste entier.
Oui, mais il va falloir qu'il y en ait combien, de comme ça, pour faire plier éventuellement.
Il faut attendre maintenant les fameuses journées des 7 et 8 février, on verra ce qui va se passer.
Et d'autres actions conjointes, peut-être.
Et d'autres actions. Et pendant ce temps-là, on va voir le déroulement de la procédure législative. Donc, pour l'instant, encore une fois, on en est toujours à une situation de très grande, je disais tout à l'heure, incertitude à tous les niveaux.
On n'est pas à l'abri, Jean Messia, que ça se corse encore plus si le texte venait à passer. Ça s'est vu dans l'histoire. Hein, et qu'après, le texte soit retiré, et in fine, ça arrive. Hein.
Ça arrive. On a vu des mouvements sociaux et des bras de fer entre la rue et le gouvernement qui, on dirait, des jours, mais même peut-être des semaines, parfois. Donc il n'est pas exclu, si vous voulez, que plus ça dure et plus, effectivement, il y a une radicalisation des deux côtés. Mais je voulais rebondir à nouveau sur la nébuleuse évoquée par Sandra Buisson tout à l'heure. Donc si il y a une nébuleuse et si ces gens-là sont en dehors du cortège, c'est qu'ils sont identifiés, c'est qu'on sait qui ils sont. Donc si on arrive à identifier quelque chose qui s'appelle la nébuleuse, c'est que les forces de l'ordre peuvent agir préventivement comme ils le font à chaque fois lorsqu'il s'agit d'autres groupes violents. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, cette inaction, cette complaisance vis-à-vis de...
L'interdiction, pardon. L'interdiction
administrative.
Des premières manifestations des Gilets jaunes, le gouvernement a fait passer un texte pour dire on pourrait effectivement interdire sur décision préfectorale tel ou tel individu, ça a été retoqué par le Conseil.
Alors, quel texte
donc,
a été...
Ils n'ont pas les moyens juridiques, sauf si effectivement ils trouvent sur eux quelque chose. À ce moment-là, ça justifierait effectivement une mise en garde à vue, une interpellation.
Mais c'est ce qu'ils ont.
Mais
ils ont
autrement, en dehors d'une décision de justice qui vous interdise, effectivement, le juge peut le faire, une manifestation, l'administration est quand même assez peu pourvue en moyens.
J'imagine que vous parliez des Black Blocs qui sont là actuellement dans le cortège. C'est de cela que vous parliez.
Si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il s'agit des groupes d'ultra-droite, et je persiste sur cette question.
Oui, on va revenir sur l'exemple que vous preniez la semaine
dernière. Il y a des arrestations préventives et on ose le terme. Mais le terme a été utilisé par le ministre.
Sur ce qui s'est passé.
Non, mais ce mot-là a été utilisé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Au moment où c'est arrivé. Donc il y a eu des arrestations préventives. Au moment où ils font les arrestations préventives, ils ne savent pas que les gens sont armés. Ça, ils le découvrent une fois que les gens sont fouillés.
Si, sinon, ils n'ont pas le droit de les arrêter.
Attendez, ils savent que les gens sont fouillés.
Moi, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je l'ai suivi, l'arrestation des 40 personnes.
Ils ne sont pas vers la l'enchanteur. Ils sont pas
pour l'ultra-droite.
Et les Black Blocs, vous l'avez dit vous-même, juste à l'instant, vous l'avez dit vous-même, ils ont des boules de pétanque, ils ont aussi du matériel sur eux.
Pour l'ultra-droite.
Allez-y.
On peut discuter. Pour l'ultra-droite, quand ça s'est passé après le match France-Maroc, la quarantaine d'individus d'ultra-droite qui ont été arrêtés sortaient d'un bar, étaient en train de se cagouler et avaient des armes par destination sur eux. Si des individus d'ultra-gauche étaient à la sortie d'un bar ce matin en train de se cagouler et avec des armes par destination, ils seraient arrêtés. Là, ils sont dans la manif. Il y a effectivement...
Non, ils sont en dehors, vous avez dit. Ils sont en dehors. Non,
ils sont dans le pré-cortège, ils sont devant, ouais.
Là, ce qui se passe, depuis ce matin, il y a des contrôles en amont, que vous pouvez appeler préventifs aussi, si vous voulez, pour déjà détecter les personnes qui viennent. Et on a des photos régulièrement des saisies, des armes par destination. Là, la préfecture de police vient de tweeter certains des éléments qui ont été saisis. La particularité de l'ultra-gauche, c'est qu'ils n'arrivent pas à 40 avec la cagoule sur la tête avant la manif. Ils se masquent au dernier moment, ils arrivent, ils se répartissent dans le cortège et ensuite, ils vont, comme aujourd'hui parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, dans ce cortège de tête. Une fois qu'ils y sont, la question des forces de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre et l'équilibre entre créer plus de dégâts en intervenant qu'en n'intervenant pas. Donc on a vu des manifestations, notamment il y a quelques années, en 2019, précédente manifestation contre la réforme des retraites, 400 Black Blocs qui étaient dans le cortège de tête, tenus au plus serré par les forces de l'ordre parce qu'il y avait un flangardage. Et ces gens-là, ils n'avaient pas été interpellés tout de suite parce que ça aurait créé trop de désordre et de violence vis-à-vis des manifestants classiques. Mais il n'y a pas eu de dégradation ni de tension parce qu'ils étaient tellement serrés qu'ils n'ont pas pu passer à l'axe. Le maintien de l'ordre, c'est toujours un équilibre à trouver entre est-ce que ça arrangera la situation si vous intervenez ou pas. Là, ils y sont. Ils ont tenté de passer à l'action. Les forces de l'ordre sont intervenues. Donc non, ils ne s'égaillent pas dans la nature. Ils n'ont pas réussi à passer à l'action. Les forces de l'ordre sont intervenues. Et d'ailleurs, c'est la particularité de ce maintien de l'ordre du nouveau préfet. C'est de laisser les forces de l'ordre plus éloignées dans les rues adjacentes et de les envoyer au dernier moment et le plus rapidement possible quand il y a des débordements pour y mettre fin. Et là, on l'a vu, ils y ont mis fin.
Pascal Bitopanelli, d'une certaine manière, ces groupuscules qu'elle décrit là, qui tentent de passer à l'action mais qui sont repoussés, eux, ils profitent justement de la présence d'autres personnes, de cette foule, pour la prendre quelque part en otage, c'est-à-dire qu'ils se servent de la confusion créée autour pour pouvoir commettre leurs méfaits. Donc c'est une sorte de prise d'otage, parce qu'ils savent que les CRS vont pas foncer dans la foule.
Oui, tout à fait. Oui, que les forces de l'ordre vont avoir du mal
une forme d'opportunisme.
À discriminer les publics, tout à fait, et donc vont se mêler comme un caméléon et en prendre les couleurs, voire après en kidnapper même l'ADN de cette manifestation. Alors Georges l'a dit, et c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle le débat est important, l'interdiction administrative de manifester retoquée par les hautes administrations reste quand même un dossier qu'on explore de plus en plus et qui reste ouvert sur les bureaux des pays la pratique. Il est vrai que c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder de plus près, sur lequel il faut qu'on monte de degré en degré.
Retour sur le terrain avec Adrien Spiteri qui est dans le cortège également. Adrien, que se passe-t-il à l'endroit où vous déambulez avec la foule?
Eh bien écoutez Nelly, le cortège continue d'avancer doucement dans le calme là où nous nous trouvons sur l'avenue des Gobelins, c'est-à-dire en milieu, fin de cortège. Énormément de monde ici à Paris, des syndicats, des politiques, membres de la NUPES, des étudiants également, des travailleurs et même des retraités, tous sont venus dire non à la réforme des retraites, au report de l'âge légal de départ à 64 ans. Ils espèrent en somme faire plier le gouvernement, le convaincre qu'une majorité de Français sont hostiles au projet. Des manifestants satisfaits globalement de la mobilisation aujourd'hui dans les rues de Paris. Entre 80 000 et 100 000 personnes étaient attendues. Alors les chiffres seront communiqués en fin de journée, mais à première vue, le pari des syndicats semble avoir été gagné, celui de réunir autant, voire plus de monde que le 19 janvier dernier.
Merci beaucoup Adrien, accompagné de Jules Bedeau pour les images. Je vous propose d'écouter Laurent Berger pour la CFDT. Lui aussi, hein, il est inflexible sur cette question des 64 ans, mais dans l'autre sens bien sûr, il dit on ne veut pas, que ce soit 63, 64, 65, on ne veut pas toucher au départ de l'âge légal et il a bien l'intention de batailler ferme avec l'exécutif. Écoutez.
Cette réforme, elle n'est pas partie du travail, elle est partie de l'équilibre financier. Ce que dit le monde du travail aujourd'hui, c'est qu'on voudrait qu'on parle de notre travail. Et comme on va parler de notre travail, on voudrait vous faire la démonstration que 64 ans, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'en veut pas. Et donc, il faut que le gouvernement écoute. S'il n'écoute pas, on recommencera.
Georges Fenech, c'est pas les plus virulents à la CFDT. Néanmoins, voilà, ils en ont fait une sorte de casus belli hein, de cette question des 64 ans, comme toutes les autres organisations syndicales. Mais on sent que dans... les actions à mener, de blocage notamment, ils ne sont pas totalement en phase à la CFDT avec la CGT. Ce n'est pas la même philosophie de toute façon syndicale. C'est aussi parce qu'il y a cette crainte finalement qu'à force de blocage, on pourrait voir une partie de l'opinion se retourner. Et là, ce serait peut-être désastreux en termes d'impact.
Vous avez raison. Mais c'est tout ce qui fait la différence, je dirais, entre la CFDT, dont on dit qu'elle est un syndicat réformiste, et la CGT qui est plus dans la contestation forte. Je ne dis pas violente, hein, contestation forte avec effectivement des situations de blocage, on l'a vu. Hein. Mais au fond, demain, on va bien voir ce qui va se passer. Les actions illégales qui ont déjà été annoncées par la CGT, elles sont déjà, de mon point de vue, contre-productives. Vous ne pouvez pas fermer le chauffage d'un tel ou fermer la lumière de tel parlementaire, ce n'est pas possible. Ou rendre gratuit l'électricité pour d'autres. Là, la CGT, elle se met en dehors, me semble-t-il, quand même.
Approuvée, enfin, avec le blanc-seing de certaines formations politiques, on pense à LFI notamment. Hein. Oui. Manuel Bompard qui dit, moi, j'y vois pas de problème.
Bah oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir l'électricité gratuite, hein, tout le monde. D'ailleurs, je vois pourquoi uniquement les boulangers, hein, après tout.
Non, mais l'opposition démocratique...
Oui, le parti, vous avez raison,
contre,
LFI,
voilà.
Ne condamne pas, évidemment, ces actions. Donc, c'est toute la différence hein, de l'histoire syndicale de ces grandes organisations. Mais ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est l'unité syndicale aujourd'hui sur le rejet total de cette réforme.
Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la contestation des réformes de retraite.
Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'unité syndicale comme ça. Hein. Je crois qu'il faut remonter peut-être à 2010. Hein.
Oui, il y a au moins une dizaine d'années, effectivement, de mémoire de nos 2010, collègues du service politique.
Malgré l'unité syndicale, la réforme était passée tout de même. C'était sous Nicolas Sarkozy, contrairement à 1995, rappelons-le, où là, Jacques Chirac avec Alain Juppé, mais à cette époque-là, trois semaines de grève, de blocage, de transport, le pays était vraiment presque à feu à sang. Quoi.
Augustin Donadieu, en tête de cortège, est-ce que vous progressez? Parce que vous étiez tout à l'heure aux abords de la rotonde, on vous a vu stagner quelque peu, et puis là on a l'impression quand même que le cortège se remet en branle quelque peu, hein.
Oui, c'est exactement ça. Là, on est exactement au pied de la tour Montparnasse, pardon, en tête de cortège, bien avant le cortège syndical. Nous sommes vraiment au milieu de personnes non syndiquées, des retraités, des personnes âgées, des jeunes également, beaucoup de jeunes, à la fois des mineurs, mais également eh bien, des jeunes majeurs qui manifestent dans un calme très, très apparent, un calme qui contraste avec les quelques échauffourées qu'il y a eu tout à l'heure, notamment auprès de l'établissement bancaire, ou les quelques échauffourées également en toute tête du cortège. En tout cas, ici, effectivement, le cortège avance très bien, très vite et dans le calme.
Merci beaucoup. Donc, 500 000 manifestants
Selon la CGT à Paris, il faut attendre les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ça paraît quand même beaucoup, 500 000. Hein. On est sur un rapport de deux, voire trois fois plus, que, voire quatre fois plus que la dernière fois. Jean Messia, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? Là, on est revenu au calme.
Ça m'inspire que les gens sentent, si vous voulez, que non seulement cette réforme va leur être extrêmement préjudiciable en ce qu'elle va rendre une retraite à taux plein beaucoup plus compliquée à obtenir, compte tenu du décalage de l'âge de la retraite. Donc c'est une forme de réforme punitive, si vous voulez, et vécue comme telle. Mais surtout, les gens se mobilisent aussi parce qu'ils savent très bien que cette réforme n'aura pas d'effet durable. C'est-à-dire que si, effectivement, la cause de la réforme, c'est le déséquilibre entre les cotisants et ceux qui sont à la retraite, ben, c'est pas cette réforme-là qui va régler l'infrastructure de ce problème. C'est-à-dire cette réforme, elle réagit en superficie, elle réagit en aval au problème du déséquilibre financier. Oui. Mais elle n'en règle pas les causes. Donc il faut s'attendre, et les gens le sentent et le savent pertinemment, que dans 2, 3, 4 ans, eh bien, le pouvoir arrivera avec une nouvelle réforme. Et on demandera aux gens de travailler non plus jusqu'à 64 ans, mais jusqu'à 66 ans. Et tant qu'on ne s'est pas attaqué aux racines du mal, c'est-à-dire les racines, ce sont la croissance économique, l'emploi et la démographie, c'est la solution pérenne à notre financement du système des retraites, c'est la politique familiale et la politique de réindustrialisation, c'est-à-dire de croissance et d'emploi. Si vous ne traitez pas ces deux fondements de notre état social de manière générale et de notre système de retraite de manière particulière, ben vous êtes condamné à ne jamais régler le problème de manière définitive. Et en France, les gens n'ont pas envie, excusez-moi, de travailler jusqu'à 70 ans ou 75 ans.
Voilà. Le problème, Georges, c'est pas du tout pour valider ou disculper ce gouvernement-là, mais le problème, ce qu'il dit sur la politique dataliste, l'anticipation, la mise en place de choses solides pour faire qu'un pays, en termes d'emploi et de croissance, effectivement, se porte bien. Bah, ça n'a pas été fait par les gouvernements précédents non plus. On aurait très bien pu, tout en réformant, mettre en place un terreau favorable pour qu'on ne se retrouve pas à chaque fois confronté à ces situations inéluctables où on met des sparadraps, quoi.
Moi, je me souviens, puisque j'étais parlementaire à cette époque-là, il y avait un ministère de la Famille, qui me semble.
Qui a disparu complètement, oui.
Il existe aujourd'hui, le ministère de la Famille.
Non, ça n'existe plus.
Il y a une politique de la natalité. Et c'est d'ailleurs à la disparition de ce ministère, c'était sous François Hollande, qu'on a vu commencer la courbe des naissances baisser. Et aujourd'hui, on en est à 723 000, ce qui est un nombre très très bas.
Après, je ne suis pas sûr qu'à coller une étiquette à un ministère, ce soit la clé pour résoudre le problème non plus.
Écoutez, qui a supprimé le quotient familial ? C'était ça la politique natalité, de la famille, l'incitation à avoir le troisième enfant, etc. C'était ça la politique familiale. Bon. Et puis aussi, la lutte contre, l'abus de l'assistanat.
Oui.
Il faut être solidaire avec ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas non plus que rester chez soi, ça rapporte plus qu'aller travailler. Et c'est deux grands, c'est volets, si vous voulez, qui manquent à ce projet global, qui ne tient compte effectivement que des règles budgétaires, on a le sentiment. C'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de naissances, qu'on rétablisse un équilibre démographique entre les actifs et les retraités. Et comment faire en sorte qu'on reprenne le chemin du travail et que le travail ne soit pas une corvée, mais que ce soit un épanouissement. C'est tout le rapport avec le travail. Souvenez-vous de ces slogans, travailler plus, gagner plus. C'est l'envie d'aller au travail, l'envie de gagner sa vie dans des conditions, évidemment, de dignité.
Et pourtant, on nous dit, mois après mois, le chômage n'a jamais été aussi bas. Depuis X années, on est autour de 6-7. C'est presque résiduel, mais enfin, c'est presque un taux de roulement, on va dire, autour de 4-5. Hein, on le voit dans les autres pays. C'est pas vrai, tout ça ?
La tartiflette.
On trafique les chiffres.
Bon, la tartiflette.
C'est pas qu'on trafique les chiffres, si vous voulez. C'est qu'on considère uniquement le chômage de catégorie A.
Ouais, c'est ça.
Or, le problème, c'est que les autres catégories de chômeurs, c'est-à-dire si vous travaillez 2 heures par mois, vous êtes enlevé des statistiques du chômage. Et je ne vous parle même pas de l'effet travailleur découragé de tous ceux qui sont en chômage depuis très longtemps et donc qui finalement finissent par ne plus s'inscrire au chômage, d'abord parce que ça ne leur rapporte rien et parce que voilà, ils sont écartés du marché du travail. Mais si on agrège, si vous voulez, toutes les catégories de chômeurs A, B, C, eh bien le chômage, c'est toujours un chômage de masse et il n'a pas régressé. Donc personne en France, instinctivement, aucun Français ne sent que le chômage baisse. Le chômage ne peut pas baisser, c'est mécanique, si vous voulez. La croissance provoque une création d'emplois qui provoque une baisse du chômage. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas d'emploi qui se crée, et donc vous n'avez pas de chômage qui baisse. On peut pas le chômage, il ne peut pas baisser par magie.
Oui, c'est structurel. C'est,
voilà, et puis c'est un enchaînement mécanique dont la genèse n'existe pas, oui, en fait.
On parlera tout à l'heure. Faites-moi penser tout à l'heure à parler de l'emploi des seniors. C'est très important parce que là, on a dit que l'exécutif était un petit peu, était petit bras hein, sur cette question. Pas très ambitieux, le fameux index. Indice à diffuser plutôt que des sanctions fermes contre les employeurs qui joueraient pas le jeu. Mais on va retourner dans le cortège parce qu'Adrien Spiteri est avec un invité, oui, un manifestant qui est retraité, je crois, Adrien.
Oui, exactement, Nelly, je suis avec Francis qui est retraité. Bonjour Francis.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions en direct. Alors pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui alors que vous êtes vous-même déjà retraité?
Eh bien, par solidarité, pour tous les gens qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir arrêter plus tôt, c'est très bien. Et pour tous les gens qui ont des métiers pénibles et qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, donc il y a des métiers où c'est pas possible, voilà.
Vous êtes à la retraite depuis combien de temps ?
Je suis à la retraite depuis un an.
Et est-ce que pour vous, la retraite, c'est un moment important, un moment où vous pouvez faire d'autres choses ?
Exactement, c'est un moment où on peut profiter. Moi, j'ai travaillé 40 ans en horaire décalé, en travaillant le jour, la nuit. Et je pense qu'au bout d'un moment, on mérite de se reposer. Et puis, je trouve que c'est normal de prendre sa retraite à 60 ans lorsqu'on a des métiers pénibles, quoi.
Et aujourd'hui, par exemple, vous ne serez plus prêt à travailler ? Votre corps vous dirait non ou vous êtes encore physiquement apte à travailler ?
C'est certain que ça serait difficile. On imagine, moi j'étais dans les métiers de l'aéronautique, on peut difficilement envisager des métiers ou des hôtesses, comme je vois Béatrice qui travaille jusqu'à 64 ans, hôtesse de l'air et qui fête Noël dans les avions, quoi. Non, c'est pas possible. Il faut que le gouvernement il comprenne ça, quoi. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Donc, vous voyez, Nelly, des profils très divers aujourd'hui dans cette manifestation. Cela va des étudiants aux retraités, en passant par des professeurs également très présents dans ce rassemblement aujourd'hui.
Avec des retraités, effectivement. Merci, Adrien. Merci beaucoup des retraités en soutien à ces manifestants qui, eux, vont donc subir, hein, a priori, le report de l'âge légal de cette réforme des retraites, alors que vous voyez des images, je ne sais pas si ce sont des images en direct, mais de nouveau, ça chauffe un peu sur le boulevard du Montparnasse. J'ai l'impression qu'on est tout près de la tour, hein, Maine-Montparnasse, le boulevard des Invalides. On est au début du cortège, visiblement. L'image que vous voyez à gauche, ça se trouve boulevard des Invalides, à la jonction, en fait, entre boulevard Montparnasse et boulevard des Invalides, en allant dans la direction des Invalides, dont on apercevait le dôme. Je ne sais pas si une de nos équipes peut commenter ça sur place, mais enfin, distinctement, on voit donc des jets de gaz lacrymogène avec toujours sans doute cette nébuleuse. Dans l'attente de notre équipe, je vais me tourner vers vous, Pascal Bitopanelli. La nébuleuse, telle qu'on l'a décrivée tout à l'heure, c'est celle qui opère dans le pré-cortège, c'est-à-dire c'est même pas la tête de cortège, c'est l'avant-cortège, on va dire. Hein.
Absolument, c'est l'avant-cortège, c'est un peu l'espace dédié où les radicaux, les ultras, voire les black box, se positionnent pour pouvoir partir en latéral, en essayant de saturer les forces de l'ordre pour opérer soit un affrontement avec les forces de l'ordre, soit de la casse sur des cibles qui sont toujours les mêmes. Bien sûr, ce pré-cortège et cette nébuleuse, elle est, au regard des forces de l'ordre qui sont sur le terrain, extrêmement suivie par du jalonnement, par l'état-major et par tout ce qu'on sait, comme on sait travailler sur la plaque parisienne, le maintien de l'ordre. Mais il n'empêche que lorsqu'elle est en nombre, il est difficile de contrôler tous les départs. Là, on voit que sur quelques endroits, heureusement qui sont assez rares, les forces de l'ordre, pour reprendre de la distance, reprendre le terrain et faire redescendre la tension, sont obligées d'utiliser les gaz lacrymogènes et ensuite de se repositionner pour apparemment, vous voyez, faire en sorte que l'ensemble du cortège à cet endroit puisse retrouver son calme et sa dynamique d'avancer.
Allez, une première charge des policiers contre cet attroupement d'hommes et de femmes en noir qu'on a aperçu à l'écran, Pascal.
Tout à fait.
Et là, voilà, il les repousse.
Des bons offensifs et des actions d'interpellation de la BRAF qui vont interpeller les individus radicaux pour les sortir du dispositif et faire redescendre la tension, reprendre position ensuite. Rappelons-le, aujourd'hui, le maintien de l'ordre, il est
Bien sûr, toujours dans la proportion, dans le fait d'éviter le contact, mais quand même, lorsqu'on a des éléments radicaux, des éléments violents, on les interpelle immédiatement pour les sortir de la manifestation et les interpeller, faire redescendre la tension, ramener l'équilibre, avec notamment les braves. Là, on voit beaucoup de mouvements.
Ils sont quelques-uns quand même, là. Il y a nettement plus de monde que tout à l'heure.
On l'avait dit au départ de l'émission, il était certain qu'avec ce nombre, avec cette densité, on aurait une présence entre 200 et 400 éléments radicaux sur zone.
Alors, ce qui est un peu triste, là, ça vient de me revenir, parce qu'on a aperçu les images de l'hôpital Necker, hôpital des enfants malades, c'est la PHP. Vous avez peut-être souvenir, les uns et les autres, qu'il avait été pris pour cible déjà par des groupuscules, en 2016, je crois. Il y avait eu des manifestations violentes, c'était en 2016, il me semble, contre la loi travail, hein, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais il y avait eu...
C'est la loi El Khomri, non ?
La loi El Khomri, et ils avaient été... cet établissement hospitalier avait été pris pour cible avec des vitres qui avaient été brisées, il y avait des tags, et tout le monde s'en était ému, parce que quand même, s'en prendre à un édifice public qui plus est, soigne des enfants... Voilà, c'était un peu limite. Et là, on est aux abords même de l'hôpital Necker que vous avez aperçu sur les images. Georges Fenech, un petit commentaire peut-être.
Écoutez, moi je suis vraiment... D'abord, je salue le travail de ces forces de police qui sont extrêmement mobiles, efficaces, on les voit.
Ça a bien marché la dernière fois, ça a été salué, leur action.
Oui, mais en même temps, je suis scandalisé, bien sûr. Je pense comme tous ceux qui regardent ces images, que quelques individus cagoulés en noir... perturbe une belle manifestation comme celle-ci. C'est une manifestation bon enfant, on l'a bien vu. Donc ce qu'on attend, c'est qu'à l'issue de ces interpellations, véritablement, il y ait des sanctions très lourdes qui tombent par la justice pour les dégradations, les violences qui sont commises sur les forces de l'ordre. Voyez-vous ? Et puis qu'on en arrive, effectivement, une fois qu'ils sont identifiés dans un fichier, qu'on ait les moyens, effectivement, que l'administration ait les moyens de leur interdire. Parce que ce sont des gens qui sont... qui ne respectent rien, quoi, qui ne respectent pas ses libertés de manifester, qui ne respectent pas les forces de police. Et c'est une poignée, même 200, 400, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même une petite poignée qu'on connaît. Vous avez raison, ils sont identifiés. Donc il faut véritablement en finir avec ces black box, quoi.
Augustin Donadieu, vous êtes quelque part dans le cortège. Peut-être pouvez-vous commenter, je ne sais pas si vous êtes aux abords de ce qui se passe là, avec des heurts qui se précisent et des charges, des contre-charges, voilà, des mouvements beaucoup plus prononcés que tout à l'heure.
Effectivement, je vais vous expliquer la situation qui est en train de se tendre quelque peu ici. Nous sommes boulevard des Invalides, entre la tour Montparnasse et les Invalides, à l'avant de la tête du cortège, du moins à la tête de l'avant du cortège. Je ne sais pas si vous me comprenez,
oui.
Mais les forces de l'ordre sont actuellement en train de scinder en deux l'avant du cortège, avec à l'avant les éléments radicaux, et derrière, ceux que vous voyez, eh bien derrière l'image, devant l'image, pardon, eh bien ces personnes qui tentent de rejoindre leurs collègues devant. Alors effectivement, les policiers, les gendarmes ont chargé ces manifestants pour disperser la foule, à coup également de gaz lacrymogène. La situation se tend un petit peu, mais cela reste raisonnable pour le moment. Quelques jets de projectiles en direction des forces de l'ordre, mais pour le moment, visiblement, pas d'interpellation, en tous les cas, devant nous à cet instant.
On parle de combien d'individus ? Quelques dizaines, une petite centaine, parce qu'on avait parlé d'un gros chiffre. Clairement, là, il n'y a pas 400 personnes qui agitent la manifestation, mais quand même, ils ont réussi pour certains à se regrouper par petits groupes.
Oui, ils ont réussi à se regrouper par petits groupes, notamment là autour de nous où ils sont plusieurs dizaines. Mais comme je vous le disais, l'autre grande partie de ces éléments radicaux sont à l'avant du cortège, encore plus loin, là où les policiers ont scindé le cortège en deux. Donc difficile à notre niveau à cet instant de comptabiliser les éléments radicaux que vous entendez d'ailleurs autour de nous chanter des chants anti-capitalistes et anti-police.
Merci beaucoup Augustin pour ces images. Merci à Charles Baget qui vous accompagne également. Jean Messia, un commentaire sur ces images. On est proche de la fin de la manifestation. C'est-à-dire qu'il faudra suivre aussi avec attention ce qui se passe du côté de la place Vauban tout à l'heure.
Tout à fait. Écoutez, moi je salue également le travail des forces de l'ordre qui sont toujours dans un contexte extrêmement dangereux avec des individus qui les encerclent et qui sont pas animés de bonnes intentions, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, les forces de l'ordre dans ce type de manifestation, c'est la République française. Et donc, ils se doivent d'agir en ayant la main lourde et la rancœur aiguë, parce qu'il est inadmissible que dans notre pays, on ne puisse pas manifester, c'est un droit constitutionnel, mais de manière pacifique. Donc, je tout mon soutien aux forces de l'ordre dans ces circonstances, mais surtout, encore une fois, Georges Fenech l'a réitéré, les Black Blocs sont à 80% des gens qui sont identifiés parce que soit ils ont été déjà appréhendés, soit ils ont déjà été condamnés. Donc ce sont des gens qu'on connaît. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, dans ces conditions, une fois que les gens sont connus, identifiés, eh bien, ne procède pas directement à leur identification et à leur arrestation. Alors, je ne veux pas verser non plus dans le complotisme, mais c'est vrai que dans une manifestation comme ça, qui est quand même qui porte sur un sujet aussi important que cette réforme des retraites, qui comment dirais-je, braque tout le pays, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'une poignée de personnes puisse perturber la manifestation au point que nous parlions désormais que de ça, que des problématiques sécuritaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces scènes surgissent, eh bien, est évacué le fond du débat. Oui. On ne parle plus de la retraite, de la réforme.
On en a parlé un petit peu, mais là, oui, effectivement, voilà. On est sur ça.
Et si ça continue jusqu'au bout de la manif, bah, vous pouvez être sûr que ce soir, on aura le trois quarts des...
On ne peut pas suspecter le gouvernement, et en particulier le préfet de police de Paris, Laurent Lunez, de ne pas avoir mis les moyens pour sécuriser et être présent sur le terrain.
Oui, il ne dit pas ça.
Quand même,
il parle de les interpeller, de les identifier.
Oui, c'est ça. Je ne parle pas de ça. Qu'il y ait les moyens pour agir en aval, une fois que les individus se mettent en action,
je
n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que dans d'autres circonstances, on sait agir en amont. Au moment des Gilets jaunes, rappelez-vous, il y avait des barrages de police. On avait autorisé les policiers à ouvrir les voitures, à ouvrir les coffres et à saisir du matériel.
Il y avait des réquisitions du parquet.
Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire?
Et ça ne se justifiait pas, là.
Bah, attendez, vous rigolez ou quoi? Vous avez vu les scènes de violence auxquelles on assiste, et c'est pas la première fois.
Pour l'instant, c'est quand même bien maîtrisé, et c'est quelques scènes par-ci, par-là. Oui. Mais ça n'est pas ce qu'on a connu en 2019 et en 2020.
C'est vrai, mais en même temps...
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de service d'ordre.
Oui, non, mais c'est vrai, mais...
Alors, vous vouliez parler du fond, on va justement rejoindre l'une de nos équipes, c'est Thibaut Marcheteau qui est avec un manifestant, je crois qu'il s'appelle Clément, et voilà, vous allez l'interroger sur ce qui l'a poussé à sortir de chez lui et à rejoindre la rue aujourd'hui.
Vous me regardez, moi. Effectivement, Nelly, on est avec Clément, 28 ans, dans le spectacle vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi vous êtes tenu à être dans les rues de Paris aujourd'hui ?
Pour moi, aujourd'hui, c'est important qu'on continue de se battre pour nos droits. Il y a de plus en plus de recul sur la plupart de nos droits sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se battre pour que la gauche, de manière générale, reste militante, qu'on continue d'être représenté dans le pays, parce que malheureusement, c'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui qu'on se sent représenté. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent, pas simplement sur les retraites, mais aussi sur le reste du niveau de vie, l'inflation, toutes ces choses-là. En fait, le coût du logement, le coût de la vie de manière générale, dans le spectacle vivant, on est encore plus impacté par ça, étant donné que on fait partie des personnes qui... On fait partie d'un milieu précaire, hein, c'est la réalité aussi, et on est là aussi pour se battre pour nos droits de manière générale, les droits sociaux, pour contre la casse de notre système de retraite, contre la casse de notre système de santé aussi, les hôpitaux, l'éducation.
Et justement, sur la réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt à un compromis, un référendum, une négociation, une nouvelle négociation avec les syndicats, ou non, c'est niet ?
Moi, pour l'instant, je ne crois pas du tout à la négociation avec le gouvernement qui, actuellement, ne veut pas faire de recul, au moins sur l'âge pivot. Nous, on veut aussi simplement le retour de la retraite à 60 ans, en fait, comme avant 2012, si mes souvenirs sont bons. Voilà.
Merci beaucoup. Vous voyez, Nelly, c'est le profil totalement différent, intergénérationnel, cette manifestation. On a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui également.
Merci beaucoup à vous, Thibaut Marcheteau. On a quatre équipes déployées sur le terrain aujourd'hui. On est riche pour couvrir cette manifestation avec cette vue aérienne que vous apercevez de ce boulevard qui s'étire donc jusqu'aux Invalides, avec des échauffourées qui ont commencé à poindre avec à la faveur de la nuit qui va commencer à tomber aussi d'ici une petite heure. Il faudra suivre avec attention ce qui se passe, notamment au moment de la dissolution, de la dispersion de cette manifestation à l'arrivée place Vauban. Ça se trouve en plein 7e arrondissement, juste à côté des Invalides, un lieu très symbolique. Donc là, on imagine que ce sera aussi hyper sécurisé. Mais tout cela, bien sûr, vous le suivrez dans l'édition Punchline. Ce sera avec Laurence Ferrari d'ici quelques instants. Laurence qui va prendre la main. Je vous remercie à tous les trois de m'avoir aidé à commenter ces images. Voilà, bon, un peu de mobilier urbain qui brûle, mais c'est vrai qu'on s'était quand même prémuni pas mal, hein, Pascal Bitopalelli. On avait enlevé en amont beaucoup de ces projectiles de fortune qui pouvaient poser problème et éventuellement servir à ces éléments perturbateurs. Pour l'instant, c'est à peu près sous contrôle, mais on vous laisse, Laurence, suivre le reste et la fin de cette manifestation. Excellente soirée sur notre antenne.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.